Bon, eh bien, profitons de ce jour férié dans le monde anglo-saxon et sur les marchés américains pour parler de Wall Street. Et c'est Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons, comme chaque lundi, notre correspondant américain qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Memorial Day, donc aujourd'hui aux États-Unis. Mais je voulais qu'on dise un mot de Wall Street. Pour toute une nouvelle génération, j'entends bien que le Nasdaq, c'est Wall Street aujourd'hui. Mais pour d'autres générations auxquelles nous appartenons, Pierre-Yves, Wall Street, c'est aussi le Dow Jones.
Et oui, si je vous dis que je me souviens, mais vraiment, je me souviens de l'endroit où j'étais dans un couloir d'un bâtiment à Washington quand le Dow Jones a repassé la barre de 1000 points. Il l'a passé la première fois en 72, ensuite c'est retombé, et puis les choses se sont redressées ensuite dans les années 80, et je me souviens de l'endroit où j'étais, et je disais aux gens autour de moi, le Dow Jones est repassé au-dessus de 1000, et on me regardait avec des grands yeux. On est à 40 000 maintenant, enfin 39 000 et quelques, après avoir franchi mi-mai la barre de 40 000. Quelqu'un qui s'appelle David Elias a écrit un livre en 1999 et il s'est ridiculisé parce que le Dow Jones, à l'époque, que je ne dise pas de bêtises, était encore très très bas, hein, il était à 10 000. Et David Elias a dit, un analyste financier de la région de New York, qu'en 2016, le Dow Jones serait à 40 000.
Pas mal.
Il s'est trompé de 8 ans. Il n'a pas anticipé l'explosion ou l'implosion de la bulle des dot-com. Il a complètement raté, et on ne peut pas l'en blâmer d'ailleurs, la catastrophe financière de 2008. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, des tas de fans lui ont envoyé des casquettes sur lesquelles il y a écrit 40 000, parce qu'il a raison.
Qu'est-ce que ça vaut, 40 000 points sur le Dow Jones, Pierre-Yves?
Il prévoit maintenant qu'on va passer à 68 000, si je ne me trompe pas, dans 10 ans. Donc, s'il a toujours raison, il faut rester investi. Non, cet indice, 30 valeurs dites industriel est un indice qui, d'un point de vue statistique, d'un point de vue technique, est un indice dépassé. C'est un indice qui n'est pas vraiment un indice qui ne devrait pas être un indice de référence de premier plan. Et pourtant, c'est un indice emblématique, c'est un indice auquel on continue de se référer tout le temps, et j'en fais partie. Et je trouve que c'est un indice fascinant à analyser parce que sa composition, qui change à peu près tous les deux ans, montre l'évolution de l'histoire économique et de l'histoire du capitalisme américain. S'il y en a une petite seconde, je vais évoquer quelques noms avec vous qui vont vous montrer à quel point nous avons vieilli. Le Dow Jones avait comme composante, je me perds dans mes notes ici, avait comme composante encore en 1987, vous vous souvenez, 87, on a cru que c'était un grand crash, avait encore au moins deux valeurs de la sidérurgie. Je vous cite de mémoire, il contenait encore Goodyear Tire, le géant des pneus. Il contenait des valeurs de la distribution qui ont totalement disparu aujourd'hui, Woolworth, Sears, Roebuck. C'était encore dans le Dow Jones en 1987. On zoome en avant aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont tout juste rentré dans le Dow Jones au début de l'année, Amazon. Il a fallu longtemps avant que le comité qui gère cet indice et qui comprend des rédacteurs du Wall Street Journal admette l'idée qu'Amazon puisse rentrer. Il y a une autre raison qui était une raison technique pour laquelle Amazon ne pouvait pas rentrer, je vais y revenir. Et naturellement, Nvidia qui est maintenant la troisième capitalisation américaine, 2600 milliards de dollars, est loin de pouvoir rentrer dans le Dow Jones, encore que les choses peuvent changer puisque la direction de Nvidia vient d'annoncer qu'elle allait diviser par 10 la valeur de l'action et que donc au lieu de 1000 dollars, on va tomber à 100 et que là, ça devient plus facile. Et là, je m'adresse, si on a le temps, à cette faiblesse fondamentale qu'est l'indice Dow Jones, c'est que c'est une moyenne pondérée par le cours. Autrement dit, sur les 30 valeurs de l'indice Dow Jones, certaines valent 500 dollars, d'autres valent 10 dollars. Une variation d'un dollar est beaucoup plus facile à réaliser pour United Healthcare, qui est mon assurance maladie, et dont l'action est autour de 500 dollars. En revanche, pour Intel, qui vaut 10 dollars, une variation d'un dollar, c'est plus compliqué. Donc, on a un déséquilibre dans l'évolution quotidienne du Dow Jones, puisque 1 $ de variation correspond à 6,6 points d'évolution du Dow Jones. Malgré cette faiblesse fondamentale, on s'aperçoit que peu de temps après que le S&P et le Nasdaq établissent des records, eh bien, le bon vieux Dow Jones est toujours là, fidèle au rendez-vous, et nous établit de magnifiques records avec ces plafonds qui frappent les esprits, 40 000, qui aurait pu croire ça.
Et puis, comme vous le disiez, Amazon a intégré le Dow Jones, Apple est au Dow Jones également aujourd'hui, demain peut-être Nvidia, et on voit que toutes ces entreprises ont procédé régulièrement à des divisions justement de leurs actions pour justement, alors c'est peut-être pas l'objectif premier, mais j'imagine que ces groupes-là sont quand même satisfaits d'être représentés aujourd'hui au sein d'un indice aussi historique, on va le dire comme ça, que le Dow Jones industriel, hein.
Ah, c'est une référence, ça peut être une malédiction aussi. Alors là où ça devient vraiment rigolo, c'est qu'il y a des valeurs qui sont sorties du Dow Jones et qui ont été réintroduites par la suite. C'est le cas d'IBM. Quand on a remis IBM dans le paquet des 30, en fait, le cours d'IBM a commencé à chuter. Il a fallu 15 ans avant que IBM retrouve le niveau de son entrée. Outre Nvidia, il y a d'autres particularités curieuses du Dow Jones. Vous vous souvenez tout de même, si vous ne vous souvenez pas de la première fois où le Dow Jones en 1972 a franchi la barre de 1000 points, vous vous souvenez qu'il y avait une société qui était la reine absolue de la nouvelle bulle Internet, qui contrôlait les tuyaux qui allaient faire circuler les informations dans ce nouveau réseau qu'on appelait Internet à la fin des années 90, c'était Cisco. Cisco est toujours dans l'indice aujourd'hui. Cisco vaut en capitalisation 187 milliards de dollars. Vous comparez cela à Nvidia qui en vaut 2600. Je ne serais pas surpris que le comité de gestion de l'indice, s'il décide de faire rentrer Nvidia d'ici quelques mois, choisisse de supprimer Cisco et de remplacer donc Cisco par Nvidia, qui serait quand même quelque chose de stupéfiant, mais les capitalisations sont des choses assez formidables qui probablement sont exagérées. Est-ce qu'on peut vraiment penser que Nvidia vaut 14 fois Cisco ? Quand on se souvient de ce que Cisco a été. Je ne parle pas de JDS Uniface, dont nous parlions quotidiennement dans les journaux, à la radio et à la télévision à la fin des années 90. C'était une autre grandeur. Qu'est-ce qui est devenu JDS Uniface ? Je n'en sais rien.
Bon, effectivement, mais la vie des indices, c'est toujours passionnant, effectivement, à suivre, avec parfois des entrées-sorties qui se font un peu à contre-courant, on va dire ça comme ça. J'ai encore en mémoire la sortie d'ExxonMobil, donc c'était au terme du mandat de Donald Trump, 2019, avant tout ce qui s'est passé ensuite, évidemment, pour les valeurs de l'énergie. On verra, je pense qu'ExxonMobil est loin de la fin de son histoire et aura tout le loisir peut-être de réintégrer à un certain stade l'indice Dow Jones. Il nous reste quelques minutes quand même, Pierre-Yves, pour avancer sur le sujet de la consommation américaine. Derrière la résilience du marché du travail, il y a bien sûr la question des salaires et la capacité des Américains à continuer de consommer. On aura des indications précieuses, alors je m'avance peut-être, mais en tout cas des indications intéressantes en cette fin de semaine sur les dépenses et revenus des ménages américains.
Moi, je surveille ces chiffres de vendredi, pas simplement pour cette mesure de l'inflation, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation, mais aussi pour les dépenses personnelles de consommation qui ont beaucoup monté, de mémoire, plus 0,8 au mois de mars. J'aimerais voir si les choses ne se calment pas un petit peu. Il est frappant de constater, pour un vieillard comme moi, on nous dit que l'économie américaine va bien, que la consommation se porte bien, qu'on va probablement avoir plus de 3% de croissance au second trimestre, et que Target, Home Depot, Lowe's, pour ne citer que ces trois géants de la distribution, affichent 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs de baisse de leurs ventes. Les Américains consomment, oui. Ils ne sont pas tous américains d'ailleurs, il semble qu'en fait c'est ces 2 à 3 millions de nouveaux immigrants qui arrivent et qui consomment beaucoup, qui ont augmenté le pool de la consommation aux États-Unis, mais ils consomment moins de biens. La consommation de biens aux États-Unis a été négative au premier trimestre, elle est largement compensée par une forte augmentation de la consommation de services, au premier rang desquels on trouve ces fameux logements dont l'estimation est un peu controversée, mais aussi la santé et les assurances. Il faut suivre de près cette consommation américaine parce que c'est plus de 70% du PIB. Et on a cette divergence curieuse dont nous avons souvent parlé, mais je crois que c'est vraiment un sujet récurrent qu'il faut essayer de mieux comprendre parce que le mystère s'épaissit sur la solidité de la consommation américaine alors que le moral des Américains en avril est tombé au plus bas depuis 5 mois, alors qu'on a une divergence fracassante entre ce que les républicains considèrent comme la situation de l'économie et ce que les démocrates considèrent. On s'est aperçu par exemple que les anticipations inflationnistes des Américains lorsqu'ils sont républicains sont 2 fois plus élevées que celles des démocrates. En particulier dans les États pivots. Si je vous dis que le dernier sondage montre que 74% des électeurs du Michigan considèrent que la situation actuelle dans le Michigan est moins bonne qu'au pire de la pandémie du Covid. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup le président Biden, qui ne sait pas comment expliquer à ses électeurs que les choses vont bien.
De la perception par rapport à la réalité économique. Alors, encore une fois, la réalité économique telle que mesurée par des indicateurs macroéconomiques imparfaits, mais effectivement, ces écarts sont spectaculaires aujourd'hui. Il y avait un sondage du Guardian la semaine dernière sur ces sujets-là. Bon, la moitié des Américains pensent que le taux de chômage est au plus haut, que le stock market est au plus bas, etc. Évidemment, ça n'est pas la réalité, mais c'est une perception importante, notamment quand on est un homme politique en campagne pour sa réélection aux États-Unis. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Duguay avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire dans Smart Bourse sur Bismart.